On s'est peut-être réjoui sur le fait que ça circulait donc ben bien à Québec pendant la semaine de relâche. C'est faux! C'est des mensonges!
J'ai l'impression que la température aide pas, mais pour vrai, ça fait longtemps que ça n'a pas été aussi bordélique sur les routes. Peut-être commencer par vous dire que Capitale, direction Ouest, entre la 1ère avenue et Laurentienne, la voie de gauche est bloquée. Il y a un accident de ce côté-là. Il faut dire que les policiers sont arrivés. Le remorquage est en cours. Vous rappelez que sur la 73 Sud, juste avant la rue Beaulieu, la voie de droite qui est partiellement travée, c'est une panne de ce côté-là. Les policiers qui sont sur place. Si on va sur la rive nord, peut-être commencer par la capitale, direction est, ça se passe entre Henri IV et Laurentienne. Direction ouest, c'est entre, je dis Beau-Royal, mais c'est pratiquement Seigneurial dans le coin de Beauport et Laurentienne que ça congestionne. Il y a de gros problèmes si vous êtes sur Robert Bourassa Nord, entre le boulevard Laurier et la capitale. Surtout à la hauteur de Charest, là, c'est particulièrement difficile. D'ailleurs, Charest est entre Henri IV et Robert Bourassa, toujours au ralenti. Si vous êtes sur Henri IV Nord, il y a des problèmes en ce moment entre Charest et la capitale. Un peu plus aussi dans le coin de Val-Bélair, à la hauteur de l'avenue industrielle. Direction sud, toujours sur Henri IV, ça part de Wilfrid Hamel jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Duplessis, direction sud, ça part de la bretelle là, de Charest ouest vers Duplessis sud jusqu'au pont Pierre-Laporte également. Boulevard Laurier dans les deux directions, difficile à l'approche des ponts. Pour ce qui est de la 20, c'est surtout entre la route du président Kennedy et chemin des îles sur la 20 ouest qu'il y a certains ralentissements. Ça, c'est les grandes artères. Évidemment, s'il y a quoi que ce soit d'autre de plus précis, vous vous gênez pas, ça passe par le 418-971-1021. Texto.
On a une petite neige qui tombe actuellement sur Québec et ça devrait être comme ça pour les prochaines heures. On parle pas de grande accumulation, peut-être un 2 à 4 cm. Par contre, mon avertissement que j'avais en gris depuis le début de l'après-midi est passé au rouge actuellement pour la météo des prochaines heures. Donc, à partir de demain après-midi, parce que vous l'avez vaguement remarqué, hein, ça s'est réchauffé, on est parti d'un super froid à quelque chose de franchement plus confortable. On prévoit de 20 à 30 mm de pluie à compter de mercredi après-midi et ce jusqu'à jeudi soir. La pluie combinée à la fonte des neiges pourrait causer une bonne accumulation d'eau sur les routes et les basses terres. Ça, habituellement, en plus de ça, avec les pneus d'hiver, c'est jamais une bonne nouvelle, là. On parle aussi de visibilité réduite et de garder une distance sécuritaire entre les véhicules.
Puis, ça peut geler aussi, éventuellement.
On parlait à un certain moment donné de verglas, mais pour le moment, ça semble être parti. Fait qu'on est carrément passé de neige à pluie, à neige fondante à pluie carrément. À partir de jeudi, on va atteindre un maximum de 7 degrés. Puis ensuite de ça, on va se promener en du moins 13, du moins 6, du 1. Fait que c'est vraiment, il y a beaucoup d'affaires qui s'en viennent. Week-end en passant, là, on annonce du soleil. Plus froid, là, des moins 6, moins 4 et compagnie. Mais c'est vraiment la journée de demain, la journée de jeudi à surveiller. Entre autres, si vous aviez des journées extérieures, on ramène la neige vendredi. Tout ça était bien confus. Parlant de confusion, il y a des éléments d'information qui sont en train de sortir sur les fameux tarifs. Puis Max, t'es allé aux sources, t'es allé fouiller voir s'il y avait de la chair autour de l'os.
Il y en a.
Qu'est-ce qui se dit?
C'est Howard Lutnick, le secrétaire au commerce américain, qui parle d'une possible annonce demain sur une entente pour un... là, on parle... soit pour enlever tarif, mais ce qui... puis j'ai hâte de voir la citation exacte, là, c'est beaucoup Twitter en ce moment que c'est en train de sortir, mais au moins un compromis
On parle d'un milieu, en fait.
Ouais.
Hein.
Fait que, serais-tu un 10%, un 15%, serais-tu d'enlever certaines affaires? Mais il y aurait entente, possiblement, d'annoncer demain pour un compromis sur les taxes, autant pour le Canada que pour le Mexique.
Mon Dieu, j'ai l'impression d'être dans une espèce de rêve super flou, digne d'un film de David Lynch. Là, c'est vraiment n'importe quoi. On va continuer à surveiller ça, puis on aura plus de nouvelles pour vous au courant des prochaines minutes. Pendant ce temps-là, s'installe en studio avec nous autres. Quel beau timing! Alex Leblond, qui est planificateur financier, puis non, on ne fera pas une chronique sur les tarifs parce que vous voyez à quel point tout ça est volatile, mais j'ai quand même des questions pour lui. Salut Alex, ça va bien?
Hey, ça va, vous
autres? Oui, je veux savoir à quel point tu as bien... j'allais dire, éduquer ta clientèle, carrément, parce que tu nous as souvent parlé de placement, que quand il y avait des variations importantes, qu'il ne fallait pas paniquer. Depuis que la bourse a commencé à chuter, depuis qu'il y a eu des mouvements, combien tu as eu d'appels de clients qui t'ont dit « Vends tout, je dois tout sortir ».
J'en ai eu, pas aussi intense que ça, mais j'en ai eu un que j'ai dû, puis c'était un client super smart. Là, c'est juste
il y avait juste des questions.
Il a entendu quelque chose dans un podcast, puis là, ça l'a fait un peu freaké, mais on s'est fait une rencontre, puis ça avait un été. L'idée, c'est toujours la même chose, c'est de dire, « Hey, si toi, t'as 42 ans, puis t'as de l'argent pour ta retraite qui est investi pour les 25 prochaines années, cette semaine puis la semaine passée, on s'en fout un petit peu. Là.
Ouais. Ça va se résorber éventuellement.
Tu peux pas prendre une décision long terme en fonction des ajustements d'un bonhomme sénile de 79 ans qui est là pour 4 ans. Là. C'est pas logique. Là. Par contre, si c'est ta mise de fonds de ta maison dans 3 semaines, ben là, c'est sûr que normalement, ta stratégie d'investissement, ta stratégie d'investissement est supposée être différente un peu. T'sais. Fait que non, je n'ai pas vraiment eu de trucs de même parce que avant de mettre quelqu'un dans un produit d'investissement, je vends plus la perte que le rendement.
Mm-hmm.
À mesure où je montre les pertes historiques, puis si tu n'es pas à l'aise avec ça, bien, on descend le profil de risque.
À ce moment-là, on va aller dans quelque chose de plus modéré plutôt qu'aller vers quelque chose de risqué qui pourrait peut-être rapporter plus à long terme, mais qui est plus volatile.
Exact. Fait que tu vois, cette semaine, oui, ça a baissé, mais on est quand même dans le vert. T'sais, dans tous les portefeuilles qu'on utilise, on est dans le vert depuis le début de l'année. Fait que c'est pas comme si le monde s'écroulait non plus.
Quand il y a eu des vrais gros crashs à la bourse, habituellement, ça prend combien de temps avant qu'on disent qu'on est capable de résorber des pertes qui auraient pu être encourues?
Ça, c'est super intéressant parce qu'il y a une statistique bien précise là-dessus. Là. Je ne sais pas elle commence quand. Là. Je pense que ça commence surtout la Grande Dépression. Là. Citez-moi pas là-dessus, là. Je ne l'ai pas devant moi. Mais en moyenne, une baisse de 20 % sur le marché américain. Fait que tu peux dire que c'est à peu près pareil sur les autres marchés. Là. Mais sur le marché américain, une baisse de 20 % en moyenne, ça prend 4 mois à se résorber.
Okay.
En moyenne.
Absolument, ça, c'est après une crise, là, après une dure période. Là.
Exactement. Fait que vous voyez, pendant la COVID, ouais. Ceux-là qui ont capoté à leur relevé du 31 mars, le relevé du 30 juin, c'était good. Là. Ça allait bien. Là. Fait que si t'as pas liquidé tes positions, si t'as pas tout vendu, c'était parfait. 2008-2009, ça a été quand même un petit peu plus long. Mais historiquement, c'est ça. En moyenne, une baisse de 20 % ça prend 4 mois.
Fait que là, même si on voit des fluctuations vers le bas, il n'y a pas de quoi faire une crise cardiaque. Là.
Exactement. Puis tu vois, à long terme, là, des fois, les gens se posent la question, hey, qu'est-ce qui détermine si le prix d'une compagnie, d'une action monte ou descend? T'sais, ça a l'air un peu absurde, juste comme concept. Là. L'idée, là, c'est qu'à court terme, le marché il est super volatile.
Mm-hmm.
On l'a vu aujourd'hui, là, t'sais, mettons, juste le CEO de Best Buy, il a fait l'erreur d'être honnête. Il a dit, ouais, guys, c'est sûr que les prix montent, là, quand ce qui se passe. Puis l'action de Best Buy a descendu,
ah,
je pense,
vrai?
À moins 13 % tantôt. Ouf. Mais tu sais, c'est le seul qui a été honnête. Target, même affaire. Ils ont dit, ben oui, les prix vont remonter. C'est pas nous autres qui payent ça, les tarifs, c'est vous autres. Là. Ils ont dit ça carrément de même. Puis, tu sais, ça se reflète sur les marchés, dans les compagnies où ils sont honnêtes.
T'sais. Avant de passer à notre sujet qui ne touche pas ça directement, parce que Warren Buffett, c'est un nom que je t'ai déjà entendu prononcer, c'est une des grosses têtes qu'on suit habituellement dans les placements. Lui, hier, avait parlé des tarifs en disant que c'était un acte de guerre carrément qui avait été fait par Trump. C'est la première fois qu'il se prononçait directement par rapport à tout ça. Quand lui fait une sortie comme celle-là, est-ce que ça peut avoir une incidence sur les marchés ou à tout le moins sur des têtes d'entreprise?
Oui et non. Dans la mesure où Buffett, c'est pas la première fois qu'il se prononce sur les tarifs. Puis ce qui est drôle, c'est que les États-Unis, là on s'entend, c'est de par la nature du personnage, c'est on en parle beaucoup, mais Biden a gardé beaucoup des tarifs de Trump version 1. Obama utilisait les tarifs.
Qui avait été un peu modulé. Puis...
Les États-Unis, historiquement, malgré l'ALENA puis les deals de libre-échange qu'on a fait avec le Canada dans les années 90 et avec le Mexique, c'est un pays qui est très protectionniste.
Oui.
Parce que là,
là, c'est du mur à mur.
On est quasiment à l'impérialisme plus qu'au protectionnisme. Là. Mais tu sais, les États-Unis ont toujours fonctionné comme ça. C'est juste que là, la manière dont c'est fait, puis vu que tu ne sais pas vraiment où est-ce que ça s'en va, les marchés, ce n'est pas les tarifs qu'ils n'aiment pas. Le marché n'a rien à foutre d'un tarif. Mm-hmm. C'est l'imprévisibilité.
Ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas en ce moment.
Ben, tu sais, juste l'affaire que tu viens de dire, Max. Le secrétaire du commerce, là, c'est... Le marché ferme, là, mais tout va bien soudainement parce que le secrétaire de commerce dit « Hey, ben, ça se peut qu'on ait un deal demain. » Mais ce même dude-là, avant-hier, disait « Inquiétez-vous pas, ce sera pas 25 %. »
Ça pourrait être
Tu te rends compte qu'ils n'ont aucun impact. Là. C'est lui qui décide. Fait que ce que j'ai vu, la dernière chose que j'ai vue, c'est que ce serait les produits exclus du tarif seraient ceux qui sont encadrés par le plus récent traité de libre-échange Canada-US-Mexique qui date de la première administration Trump, traité dont Trump... renie essentiellement, là, même si c'est lui qui l'a signé. Là. Mais ce serait la dernière version, mais c'est la version 4h34, fait 4h40, je sais plus c'est quoi. Là.
Non, j'ai aucune idée, ça a probablement bougé encore.
Ouais.
Hey, sortons de là, tu nous as proposé un sujet aujourd'hui. En fait, on va parler de malaise carrément. Parler d'argent en famille, un tabou à casser, puis L'origine de ton sujet, c'est un sondage qui avait été commandé par la Fondation fiduciaire canadienne des bourses d'études. J'ai aucune idée c'est quoi.
Ah, moi non plus.
Okay.
J'espère qu'ils sont crédibles. Parce que
mais au moins, va... c'était pour faire beau.
C'est une belle amorce.
Si leurs chiffres ne sont pas bons, on est dans le trouble. Là. Mais c'est intéressant. Parce que ça, on le voit, je le vois des fois dans les rencontres clients, je le vois vraiment au day-to-day. Là. Il y a encore, justement, on en parle souvent, là, le tabou relié à l'argent de près ou de loin. Puis j'aime l'aspect un peu intergénérationnel de ça. Parce que oui, t'as le parent avec son enfant quand le kid a 7-8 ans.
Quand ils vivent sous le même toit.
C'est
là.
Ça. Ouais. Mais t'as aussi le parent vieillissant et son enfant rendu à 35, 40, 45 ans. Où là, c'est encore plus important d'être un livre ouvert au niveau des finances.
Hein, pas vrai?
Ben vraiment. Vraiment, parce que...
Moi, je parle pas de cash avec mes parents, je suis désolée. Là.
Ben... Que toi, t'en parles pas, c'est pas si important, mais eux doivent en parler avec toi.
Ils m'en parlent pas plus!
Parce que, tu sais, on s'entend, là, ils sont encore relativement jeunes, mais ça reste que la vie, des fois, ça pardonne pas. Fait que normalement, là, puis ça, on pourra y arriver en détail, là, mais moi, je dis toujours aux clients, « Hey, faut que tu saches, tes parents, ils ont combien? » Faut que tu saches le testament est où. Faut que tu saches.
Hey, tu peux. Moi, mon impression par rapport à ça, si je pose cette question-là à mes parents, je trouve que j'ai l'air de la fille qui prévoit sa vie en fonction de voici jusqu'où je peux m'endetter, puisque quand mes parents vont claquer.
Ils vont me laisser de l'argent.
Ils vont me laisser de l'argent, puis je suis très mal à l'aise avec ça.
Bien, je comprends le malaise. Mais l'idée, là, c'est de dire, mettons, une succession qui va bien. Là. Mettons, on a tous les documents, on sait exactement qu'est-ce qui est où. Ça peut prendre, là, en moyenne, entre 12 à 18 mois. Ça, c'est si ça va bien. Là. Si j'avais un PDF là, avec toutes les infos puis où chercher. Mais t'as bien beau avoir, mettons, une assurance vie. Si personne ne sait qu'elle existe, la police, là, rien à faire avec ça. Là. Parce que l'assureur, il check pas. Il n'y a pas quelqu'un chez Desjardins qui check les avis de décès au cas où tu décèdes. Là, il check.
Nécrologie,
il y a une police.
Ouais.
Ben, appeler son fils. Il faut que t'es. Si vos parents sont. Plus vieux, ou même si vous êtes plus vieux et vous avez des enfants adultes, faut que ce soit connu, ça. Parce que justement, même, mettons quelqu'un qui a fait un testament pas notarié, là, mm-hmm. testament devant témoin, puis c'est parfait, ça coûte moins cher, mais il dit jamais à quelqu'un que ce testament-là existe.
Qui est dans le fond d'une boîte en quelque part, ben, c'est caduque.
Il a bien beau exister, il faut que quelqu'un le trouve. Là.
Ça arrive-tu des gens qui, justement, réclament pas leur succession, justement parce qu'ils savent pas qu'il y a une police d'assurance-vie? Ou...
Ben, on le voit beaucoup dans les polices d'assurance-vie. Ça, parce que justement, l'assureur, lui, il devine pas là, que t'es décédé. Là. Il peut pas, à un moment donné, il y a des centaines de milliers de contrats en vigueur. Il peut pas faire ce suivi-là. T'sais. Fait que ça arrive souvent. Souvent, ça va tomber en déchéance parce que s'il y avait encore un paiement qui est dû ou à un moment donné, il y a un changement d'adresse, puis ils vont se rendre compte que cette personne-là est décédée. Mmh. Mais ça arrive, il y a plein... Les banques de données des assureurs, c'est le festival du contrat non réclamé.
Okay. Mais Alex, c'est-tu une question tant de tabou d'argent ou juste de déni général? Parce que moi,
je veux pas que mes parents meurent.
Oui, parce que moi, je me rends compte que dans le fond, maintenant, on parle plus d'argent pour mille et une raisons. On est moins... chez nous, on est moins réservé par rapport à ça. Par exemple, je parle pas de testament avec mes parents. Là, mm-hmm. Parce que dans ma tête, mes parents, ils mourront pas. Là.
Ouais.
Tu comprends ce que je veux dire? On n'aborde pas le sujet parce qu'on y pense pas.
Oui. Bien, moi, ce que je le vois beaucoup, là, justement, tu parles à quelqu'un de, justement, 45, 50 ans, 55 ans, whatever. Tu es relativement jeune, mais qui commence tranquillement pas vite à avoir les réflexions de retraite, puis mm-hmm. de fin de vie, puis tout ça. Puis une des questions à laquelle je n'ai jamais de réponse, là, presque jamais, c'est « Hey, as-tu un objectif successoral? » T'es-tu la personne qui dit « Hey, je veux laisser 50 000 piastres à chaque enfant » ou toi, tu dis « Ben, moi, ça me dérange pas, ils prendront ce qui reste, puis ici, il reste rien, c'est pas trop grave. » Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dedans, mais le fait de penser à ça, moi, ça vient changer le plan au complet. Là. C'est pas en même game. Là. Fait que tu vois, justement, je pense que oui, ça en fait partie. Le fait de « Hey, je veux pas penser à ça, je veux pas avoir ces réflexions-là, mais t'as bien beau punter ça par en avant, plus tu retardes ces décisions-là, plus tes volontés, si jamais tu réussis à trouver c'est quoi, sont dures à exaucer. T'sais. Moi, si tu me dis à 45 ans c'est quoi que tu veux faire, il n'y a aucune porte fermée. Aucune. On peut faire à peu près n'importe quoi. Je peux te faire un plan là, si tu as un salaire dans la moyenne, puis il n'y a rien qu'on peut pas faire. Si tu veux laisser 100 000 piastres à chacun, let's go, je suis capable de faire un plan pour ça. Si tu veux, ça me tend, c'est possible. Par contre, à 50, c'est plus tough. À 55, c'est plus tough.
Tu te rapproches,
puis à 60... Je peux essayer, mais ça risque.
Gagne à la loterie, ça va être plus simple. Tu sais, là, on parlait de nos malaises par rapport à nous. Tes chiffres à toi, ils disent quoi sur la population générale par rapport à jaser d'argent en famille?
Bien, les chiffres du sondage, justement, je les trouve intéressants parce qu'il y a des affaires là-dedans que je pense qu'on a tous vécu un petit peu soit en ayant été témoin ou juste dans une famille ou dans une belle famille, ou, ils ont comme posé la question, « Hey, c'est quoi ton tabou numéro un avec l'argent puis les moments où tu es le plus mal à l'aise dans l'argent? » Puis le numéro un, là, je le trouve vraiment intéressant, c'est 19 % des gens qui ont répondu ça comme étant leur pressure point numéro un. Là. C'est quand dans la même famille, il y a des grosses situations...
des disparités, en fait?
Ouais, disparités au niveau du revenu. C'est-à-dire que, OK, on était 3 enfants dans la famille chez nous, on est rendu à 30, 33, 36 ans. Il y en a un qui fait 350 000 par année, fait les voyages en Europe, il y a tout. Puis l'autre, pas que ça a moins bien été, mais il a fait des choix différents, puis lui, il est bien avec ça, mais il fait 36 000, puis... Ça, j'en ai déjà été témoin, pas dans ma famille directe, mais dans des cercles où j'étais. Puis il y a comme un gros non-dit, une genre de... C'est-tu une jalousie ou... Ben, ça arrive souvent. Là. C'est bien rare que tu as 3 enfants puis ils ont exactement le même
salaire, le même rythme de vie. Ouais.
Fait que ça, c'était le point numéro un qui a été soulevé dans
le sondage. C'est peut-être le malaise de... Toi, tu peux offrir à tes enfants, justement, les gros voyages, puis moi, je pourrais pas me les permettre. Fait que cousins, cousines n'auront pas les mêmes expériences de vie.
Ben exactement. Ou école privée, sport, études, ce genre de choses-là.
Ou encore on cote pour un cadeau.
Ouais.
C'est parce que t'es pas capable de mettre tout le même montant nécessairement. Ou encore la personne qui fait des sous, qui a comme des ambitions, toi t'es comme, excuse, mais moi j'ai pas les moyens de mettre la même chose que toi dedans, là.
Ouais, exact. Puis même, tu sais, ça tu le vois dans... le point numéro 2 surtout, là, tu sais, 15%, c'est tout ce qui est priorité financière différente, là. Ben ça tu le vois un petit peu dans... OK, il y en a beaucoup que... Puis ça, mon client, je te parlais tantôt, là, que et les marchés le stressaient beaucoup. Là. Il m'en a parlé de ça. Il disait, je suis en train de manquer quelque chose. Là.
En faisant des placements plutôt qu'en dépensant l'argent?
Lui, il a une super belle discipline. On a un plan qui est clair, il suit. Puis il voit des gens qui ont la même job que lui. Fait que c'est un emploi dans la fonction publique. Là. Fait que c'est les conditions de tout le monde. Même personne qui fait le même job, c'est son salaire tout... Elle a fait les 3-4 voyages, puis elle a le gros char, la BM, puis ils ont le même revenu, mais ils ne dépensent pas de la même manière. Fait que lui, il se dit, ben crime, je comprends que j'ai vu tes tableaux, ils sont bien cute, là, mais ils sont bien moins le fun que d'aller en Espagne, tu sais.
Effectivement. Fait que... Je suis dans ce type de réflexion-là ces temps-ci à me dire, OK, j'ai pas le choix, tu sais, pour assurer ma retraite, mine de rien, on travaille pas au gouvernement, là, on n'a pas un fonds de pension, on n'a pas le choix de faire des sacrifices de placement. Mais d'un autre côté, je suis dans fleur de l'âge, j'ai des opportunités, qu'est-ce que je fais? Puis je comprends tout à fait son questionnement par rapport à tout ça.
L'autre point où les gens se disaient, hey, pourquoi qu'est-ce qui fait en sorte que l'argent est tabou dans notre famille? Ben, manque de connaissances financières. Fait que ça, on le voit beaucoup dans des. Surtout quand, justement, moi, je le vois des fois, des gens qui me demandent, hey, comment je fais pour parler d'argent à mon enfant si même moi, je connais pas le sujet, tu sais. Ouais. Fait qu'on a bien beau, parce que souvent, ça, c'est de génération en génération, là. On a bien beau essayer de se convaincre du contraire, là. Si quelqu'un est super à l'aise avec l'argent, bien, plus souvent qu'autrement, ça va s'en aller dans la génération d'en bas. Puis si la personne, bien, je l'ai vu des fois, moi, dans des cas où j'ai le parent et l'enfant, tu sais, mettons, le parent est à 60 puis l'enfant est à 30, ils ont souvent là, exactement le même profil.
Ah, c'est
soit
normal,
sont
là.
Sharp, puis ça y va, puis oui, ils sont curieux, ou soit c'est vraiment difficile.
Tu sais, mettons, la littératie financière de mes parents, quand j'étais jeune, ils disaient « mets-toi des REER, c'est important ». Sauf que ça s'arrêtait pas mal là, parce que les connaissances s'arrêtaient pas mal là. Fait que moi, il a fallu que je fasse ma propre éducation des années et des années. Pas trop tard nécessairement, mais tu sais, j'ai dû faire du rattrapage. Alors que si, mettons, j'avais des enfants, j'aurais pas les mêmes conversations que mes parents ont eues avec moi parce que justement, tu sais, je pense que j'ai de meilleures connaissances qu'eux ont eues quand ils m'en parlent à moi.
Parenthèse, REER, c'est quoi l'âge maximal pour t'ouvrir ça, mettons?
Ben, t'as pas d'âge. Ben...
Non, mais dans mesure, qu'est-ce qui est logique? T'es-tu obligé de t'ouvrir un REER dans la vie ou comme tu peux être dans des CELI toute ta vie, puis manier faire juste un transfert d'argent?
Ben, tu sais, le REER, là, il est à son maximum quand on a... Puis ça dépend vraiment de... C'est pas un conseil, qui chaque situation est unique, là, mais règle générale, là, en bas de 45 à 50 000 de revenus, t'as pas vraiment d'avantage à cotiser dans le REER parce que t'as bien beau avoir une déduction quand tu vas... sortir ton argent en retraite, tu vas avoir essentiellement le même pourcentage d'impôt. Le REER est à son meilleur quand, pendant que je cotise, je suis dans ma vie active, j'ai un bon salaire, j'ai une déduction à 45-50%. Mm-hmm. Puis quand j'arrive à ma retraite, bien là, mes revenus sont un petit peu plus modestes. Puis là, soudainement, oui, je suis imposé, mais à 36 à 26. Fait que j'ai une déduction à un gros pourcentage, puis je retire à un faible pourcentage. Si mes revenus sont relativement constants, autant pendant ma vie active que pendant ma retraite, le CELI ferait exactement le même job. T'sais. Fait que t'as pas d'âge maximum là, dans ta vie active. Techniquement, il faut que ton REER soit fermé au 31 décembre de l'année de tes 71 ans. Mettons, quelqu'un se pose la question, « Hey, devrais-tu m'ouvrir un REER? » Ben moi, tu l'as des fois, cette question-là. Là. Y es-tu trop tard? Ou... Ben, là, parce que ça sert à rien d'avoir cette réflexion-là. Il est moins tard que demain.
Mais il y a d'autres stratégies aussi. Il faut juste poser les questions puis rencontrer les bonnes personnes. Tu parlais des parents. Comment on fait justement pour rendre ça moins tabou, ces discussions-là? À quel moment on devrait commencer à avoir les jasettes en question pour éviter que plus tard, ça nous rattrape?
Bien, ça dépend toujours. On s'entend, là, il y a des... On ne va pas expliquer le taux effectif d'impôt marginal à un kid de 4 ans. Là, ça n'a pas d'impact, là. Par contre, une affaire que moi, des fois, quand les gens me posent la question, je leur dis qu'on peut utiliser ça, puis c'est super pertinent, c'est le régime épargne-études. Mettons que le parent a été discipliné, il a ouvert un régime enregistré d'épargne-études à son enfant à sa naissance, là, dès qu'il a eu son AS. Mm-hmm. Quand il est rendu à 11-12 ans, qu'il commence à, sans dire qu'il comprend exactement toute cette logique-là, il commence à comprendre que, OK, papa, maman, ils vont travailler, payer à la maison, puis moi, je suis un extrémiste de la transparence, OK, dans tous les aspects de ma vie. Là. Moi, je leur dis, monte-y le compte, là. Puis au début, il va trouver ça weird, là. Mais OK, il y a 35 000 piastres là-dedans, que ça, c'est à toi. Mais on peut pas partir en voyage avec ça. Je peux pas t'acheter vélo avec ça. C'est pour le futur. Puis si je laisse cet argent-là dans ce compte-là, ben le gouvernement, il donne 30
Puis là, de regarder, mettons, à chaque année, comment ça a augmenté ou quoi que ce soit pour avoir cette espèce de notion-là, j'imagine.
Exactement. Hein? Parce que ce que je vois souvent, c'est que le régime épargne-études, là, l'enfant ne sait même pas qu'il existe avant qu'on arrive au moment de faire les retraits. Puis même là, souvent, le retrait, il est fait dans le compte du parent. Fait qu'il y a une grosse opacité à ce niveau-là. Fait que moi, souvent, là, c'est la manière la plus, sans dire simple, d'avoir cette discussion-là. C'est une belle porte d'entrée. Parce que le kid, au début, il ne comprendra pas vraiment. Là. OK, pourquoi il y a 20 000 que tu dis qui est à moi, mais que je ne peux pas utiliser maintenant? C'est là que tu es capable d'expliquer justement les concepts de court terme versus long terme. OK, c'est quoi l'avantage de laisser cela versus de faire un retrait? Fait que souvent, c'est une belle porte d'entrée. Rendu là, on revient au même point que tantôt. Là. Si le parent n'a pas ces connaissances-là, bien naturellement, il ne va pas être capable de les envoyer en bas. Là. Mais ça reste que ça, c'est une belle manière d'aller chercher. Puis je vous dis pas que l'enfant va comprendre. Là. Probablement que ça va peut-être même causer un conflit. Là. Mais ça reste que c'est productif à long terme.
Si, mettons, là, tantôt, tu as parlé que les problèmes, c'était surtout quand on parlait de succession. Il y a des gens qui nous écoutent à ce moment-ci qui, eux autres, ils sont pas à bout d'âge non plus, là, mais ils ont ça, une assurance vie, ils ont commencé leur planification. Comment tu gères ça, ces conversations-là? Qu'est-ce que tu dois donner comme info? Y a-tu une manière de simplifier les choses au maximum pour que, justement, la succession ne prenne pas 6 ans à faire?
Bien, puis ça, c'est une réponse qui est peut-être plate, là, mais la seule manière de bien le faire, c'est la transparence. Moi, j'en ai fait des rencontres avec le parent t'sais, âgé de 76 ans, puis l'enfant. Puis c'est très... T'sais, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a... Mettons, la personne âgée a 3 enfants. Souvent, il y en a un qui va avoir toutes les infos, puis l'autre ne les saura pas. Fait que justement, un des points dans ce sondage, là, c'était la peur justement au niveau de l'héritage. C'est à savoir, hey, ben là, comment c'est splitté, qu'est-ce qu'il y a dans le testament. Puis s'il y a juste une personne qui est au courant de ça, si c'est pas clair à savoir... OK, moi, j'ai déjà vu dans un dossier, là, ça, c'était malade. Là, on faisait un changement de titulaire sur une assurance vie, là, une affaire niaiseuse. Mm-hmm. Puis le parent, fouille-moi pourquoi il avait fait ça. Là. Genre en 97, il avait pris une assurance vie sur sa tête à lui. Là.
Ouais.
Puis il avait désigné les bénéficiaires. Son fils était, mettons, à 70 % puis sa fille était à 30 %
OK.
Mais c'était deux mineurs, là. C'était pas...
Fait, c'est pas comme si, mettons, lui avait une famille, des enfants, puis tout le kit, puis elle, c'était autre chose, ou si elle était plus à l'aise financièrement versus son frère, là.
Ouais, mais il a fait l'erreur de les désigner de façon irrévocable. Fait que ça veut dire que pour le switcher, moi, ça me prend une signature. Je peux pas enlever un bénéficiaire irrévocable sans signature. Fait que là...
Sans signature du bénéficiaire?
Ouais. Oh. Fait que là, le parent, il disait, on va régler ça. Puis là, je disais, t'as peu, là. est irrévocable. Fait que moi, je peux bien t'aider, mais il faut que tout le monde signe. Là.
Fait dire, qu'elle va savoir, ta fille, que tu en donnais moins en partant. Oh, mon Dieu!
Fait que là, moi, je suis pas dans la famille. J'explique au moins que ça me prend une signature. Puis ça, il dit parfait. Fait que moi, j'envoie ça en signature électronique. Puis j'ai jamais eu de signature. Fait que je sais pas si j'ai le conflit qui a été créé par ça, là, mais ça s'est jamais réglé, ce dossier-là. Fait que ça, je travaille plus dans ce cabinet-là, fait que je sais pas comment ça a fini, là. Mais pour te donner une idée que, justement, si l'idée, c'est que ça soit le plus transparent possible, mais c'est sûr que la transparence, si jamais on a fait des affaires de même, ça peut être un couteau à double tranchant, t'sais.
Fait que vaut mieux penser en avance.
Ouais, puis une affaire, justement, d'avoir des discussions ouvertes là-dessus, ben ça peut nous faire sauver un paquet d'impôts aussi. Ça, c'est une affaire que les gens connaissent pas des fois, là, mais tu sais, mettons, quand tu décèdes, là, la présomption qui est faite là, par le fisc et les autorités gouvernementales, c'est que tu te départis de l'ensemble de tes biens à seconde où tu décèdes. Fait que naturellement, qu'est-ce que ça veut dire si je me départis de l'ensemble de mes biens? Ben moi, j'avais peut-être accumulé des gains, j'avais peut-être fait du rendement. Fait que tu entends, tu peux faire des roulements au conjoint, mais présumons que c'est le dernier, il n'y a plus de conjoint, là, ben il y a de l'impôt qui passe là-dessus. Si tu l'avais fait, si tu avais transféré certains montants 5 ans avant, 6 ans avant de ton vivant, là, soudainement, des dons entre majeurs liés de cette manière-là, ça peut se faire de façon non imposable. Fait que rendu là, tu peux faire beaucoup. C'est beaucoup plus facile de léguer d'un point de vue de planification financière, là, c'est beaucoup plus facile de léguer du vivant que de léguer au décès. Par contre, léguer du vivant, ça se fait pas sans cette transparence-là. T'sais. Parce que justement, si souvent, là, juste les polices d'assurance-vie, il y a beaucoup de polices d'assurance-vie qui ne servent strictement plus à rien, là, parce que la personne âgée est auto-assurée, puis elle n'a plus d'hypothèque, elle n'a plus d'enfants. La police, ça ne sert à rien. Là. Il y a des valeurs de rachat là-dessus. Là. Tu peux utiliser cette valeur de rachat-là, puis des fois, il y en a qui veulent donner ça à des petits-enfants, donner ça à leurs enfants, parce qu'on s'entend, ton petit-enfant, souvent, quand il y a... Moi, je le vois des fois...
Lui, ça va valoir la peine, parce que probablement que la police d'assurance aurait coûté beaucoup plus cher si elle était toute neuve versus ce transfert-là.
Bien, tu peux faire 1 million d'affaires. L'idée, c'est de dire, tu as beaucoup plus de flexibilité, justement, de ton vivant qu'au décès. Mais ça, c'est une autre affaire. Je le vivais avec une cliente. Elle voulait donner 5 000 $ à chacun de ses petits-enfants de son vivant, mais elle voulait le faire, justement, selon certaines notions. Puis, elle essayait de... Elle voulait qu'il y ait accès à l'argent, mais pas directement. Puis, ultimement, la conversation qu'on a eue, c'est « Hey, on leur donne ou on leur donne pas. » Si on leur donne, on les fait avec transparence. Si on veut pas qu'ils utilisent l'argent parce qu'on veut que ce soit pour une maison, faut qu'on leur fasse confiance. Là. Faut qu'on... Ben, je peux pas essayer de mettre des barrières là-dedans. C'est pas ma job. Là. Fait que tu vois, elle a une discussion franche, transparente avec ses petits-enfants. Ils ont compris c'était quoi ses volontés. Ils ont eu 5 000 $. Moi, je le vois encore, le 5 000. Il est pas flambé. Il est pas parti au bureau de poste. Là, ça va bien.
Oh oui.
Puis on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais tu vois, le fait d'avoir eu cette discussion-là super franche, ça a enlevé son stress. Les enfants, ils étaient bien contents. Mais si on l'avait essayé de le traficoter pour pas qu'il soit au courant, ça n'aurait pas donné ce résultat-là.
Alex Leblond, planificateur financier, merci. Je pense que tu viens peut-être d'ouvrir une bonne excuse, d'ouvrir une porte de discussion. J'imagine très bien quelqu'un qui dit « Hey, j'ai entendu sur la zone de boulevard
ça
ou encore
plug,
sur le blvd.fm, il parlait de succession de notre vivant. C'est peut-être une conversation que l'on devrait avoir. » Fait que merci.
Puis je vous vends pas du rêve, là. Ça va vraiment être de la marde. Là. C'est pas des conversations de fun.
Mais on aime mieux l'avoir maintenant que d'attendre trop tard quand il va falloir courir après tout.
Imagine
ça.
Imagine-tu le chiard.
Exactement.
Merci
exactement.
Pour la belle prévention. J'adore ça. Fait qu'Alex Leblond, planificateur financier, vous allez pouvoir écouter l'intégralité de la chronique sur notre application et sur le blvd.fm. Avant de partir en pause, on va regarder ceux qui sont pognés en pause dans le circuit.
Hey, sérieusement, je répète, là, ça fait longtemps que ça n'a pas été catastrophique comme ça. Là. Je pense à vous si vous êtes pognés sur les routes en ce moment. Ça doit être un petit peu glissant par endroit parce que là, la petite neige s'accumule tranquillement pas vite et la visibilité n'est pas top. Là. Rappel de l'accident qu'il y a sur la 20 Ouest à Saint-Apollinaire, kilomètre 290, la voie de droite qui est toujours bloquée. Les policiers sont sur place, là, mais la dernière mise à jour s'est faite il y a une dizaine de minutes et ça ne bouge pas. Donc, sur la V en ce moment, pour vous donner une idée plus globale, là, direction ouest, entre la route du président Kennedy et Taniata, c'est assez complexe. Il y a des problèmes aussi sur la 73, direction sud, à la sortie du pont. C'est quand même assez difficile. Il y a également des problèmes sur la rive nord. Capitale, direction est, c'est concentré entre Henri IV Saint-Hyacinthe et Laurentienne. Direction ouest, c'est entre Bourg-Royal et Laurentienne que ça se passe. Robert Bourassa, direction nord, entre Charest et la capitale, toujours difficile. Charest, direction est, entre Henri IV et Robert Bourassa, c'est pas terminé. Il y a des problèmes si vous êtes sur Henri IV nord, entre Charest et la capitale. Il y a des problèmes sur Henri IV sud, évidemment, si vous tentez d'aller chercher les ponts. Là, à partir de Wilfrid Hamel, ça commence à ralentir jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Si vous êtes sur Duplessis, c'est de Charest au pont. Dans les deux directions, boulevard Laurier, très au ralenti aussi près des ponts, évidemment. Si vous voyez quoi que ce soit d'un peu plus précis, c'est le 88 971 1021 par texto. Vous vous gênez pas.
Gravel dans le retour.